Moi, je suis un peu un Kant dévoyé, puisque j'ai fait de l'informatique et non pas de la philo. Mais je suis aussi un informaticien dévoyé, puisque je m'intéresse aux sciences humaines et sociales. Quelle horreur! Je m'intéresse à l'économie, au comportement humain, et donc ce n'est pas de la science dure, n'est-ce pas? Donc je suis doublement dévoyé, et c'est à ce titre que je viens vous parler ce soir. Alors, en fait, mon parcours, mon projet, si vous voulez, c'est de donc modéliser, d'essayer de comprendre, d'étudier les comportements humains, individuels et sociaux. Vaste programme, dirait sûrement le général. Effectivement, moi, ce qui m'a intéressé, c'était d'adapter au départ ce qu'on appelle une approche dite des sciences cognitives, c'est-à-dire fortement pluridisciplinaire. Je pense que les systèmes humains sont par définition des systèmes complexes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire à l'avance ce qu'ils vont faire. Il y a trop d'interactions, il y a trop de complexité. Donc ça, c'est un point de départ. Et puis c'est aussi l'idée que, je mets le chronomètre, et c'est aussi l'idée qu'il faut aborder ça non pas avec un seul point de vue, mais plusieurs. Donc plusieurs disciplines, les mathématiques, l'informatique, la psychologie, la sociologie, la philosophie, la biologie, etc. Donc c'est dans ce système un peu des sciences cognitives qui est apparu dans les années 90 que j'ai fait mon doctorat. Alors à l'époque, je m'intéressais à la modélisation de la décision humaine, mais en même temps aussi aux réseaux de neurones. Les réseaux de neurones artificiels, dont je vais reparler tout à l'heure, qui sont maintenant, la version dominante de l'intelligence artificielle. Je parlerai d'IA, hein, pour faire court. Et donc les réseaux de neurones artificiels, eh bien j'ai fait partie des premiers à travailler dessus. Ça m'a intéressé pendant un moment, puis au bout d'un moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait des limites pour rendre compte de la complexité des comportements humains, et c'est pourquoi je les ai abandonnés dans les années 2000 pour passer au système multi-agent. Alors, pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ce basculement, ben justement, ben ça va être un peu l'objet de cette présentation. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je précise que toutes les slides que je vous présente seront mises en ligne sur mon site, si vous souhaitez ensuite les consulter. Vous tapez Jean-Daniel Kant sous Google, vous tombez sur ma page web, et vous pourrez ensuite accéder à cette présentation. Alors, le plan est assez simple. Je vais commencer quand même par préciser ce que j'entends par IA, par intelligence artificielle, parce qu'on dit un peu beaucoup de choses là-dessus, donc je vais vous présenter ma vision. Ensuite, je vais vous parler de mon domaine de recherche, qui est la simulation multi-agent. Puis je vais illustrer ça sur quelques exemples, et ensuite nous discuterons. Mais d'abord, c'est quoi l'IA? Alors, je pourrais vous poser la question. Pour certains, c'est ça. Alors, peut-être que vous reconnaissez un film, bon, c'est un vieux film, hein, d'accord, mais c'est quand même un bon film. C'est Terminator 2 de James Cameron. Et pourquoi je m'intéresse à Terminator 2? Ben parce que dans Terminator 2, on comprend ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous spoil un petit peu, mais. Bon, je vais essayer de ne pas en dire trop non plus, mais je vous raconte pas la fin, par exemple, je suis gentil, mais je vous dis quand même que le point qui m'intéresse, c'est que le point vraiment central dans cette série de science-fiction, c'est qu'en fait, vous avez une intelligence artificielle qui s'appelle Skynet, qui a été conçue au départ avec des bonnes intentions. On a voulu automatiser les systèmes de défense, parce qu'il y avait encore la guerre froide, on avait encore peur des Russes, etc. Donc on a fait des systèmes où la décision humaine s'est vue progressivement remplacée par une décision informatique, et puis on l'a rendue, l'intelligence artificielle, de plus en plus sophistiquée, elle s'est mise à apprendre elle-même, et puis à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire que, alors, James Cameron date ça en 1997. Bon, comme Kubrick et 2001 l'Odyssée de l'espace, il était un peu optimiste sur la technologie, mais ça peut arriver, on va en reparler. En tout cas, en 97, vous avez la fameuse singularité, c'est-à-dire que la machine devient consciente d'elle-même, consciente de sa force, et se dit, bah, finalement, ces humains, ils sont quand même un peu encombrants, un peu nuls, et donc je vais m'en séparer, et je vais les détruire. Et alors, elle est très rusée, la machine, elle envoie des missiles sur les Russes, au départ, en 90, à l'époque du film, on dit encore que les méchants, c'est les Russes, bon, elle envoie des missiles sur les Russes, parce qu'on sait que les méchants russes, ils vont en profiter pour détruire l'Amérique. Et voilà, et à ce moment-là, l'IA domine. Vous remarquerez que dans ce film, bizarrement, il n'y a que les Russes et les Américains. On ne sait pas où est le reste du monde. Bon, si Skynet, apparemment, a peut-être épargné les Français, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Je vous ai mis le lien, parce que je n'ai pas le temps de le passer, où l'excellent Arnold Schwarzenegger et son inénarrable accent autrichien nous racontent cette histoire de Skynet. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a un futur Skynet? Parce qu'au départ, c'est juste une entreprise d'IA. C'est un GAFA de l'époque qui crée Skynet. Alors, à votre avis, est-ce que vous avez des noms à citer? Alors, 97, bah tiens, justement, en 97, IBM construit la machine Deep Blue qui bat Kasparov aux échecs. Bon, c'est assez. Il y a de la controverse. Il y en a qui disent que la machine, enfin Kasparov surtout, dit que la machine n'a pas pu le faire sans être aidée par un humain. Bon, peu importe. On arrive quand même déjà en 97 à un champion d'échecs. Kasparov, c'est quand même un des plus grands joueurs de tous les temps à l'époque. Bon. Après, il faut attendre 2011 pour que de nouveau l'IA se fasse remarquer. C'est toujours IBM. Et là, c'est, comment dirais-je, c'est Watson. Watson qui, alors là, c'est intéressant parce que Watson, c'est une IA qui va gagner au jeu Jeopardy. Vous connaissez peut-être pas ce jeu parce que c'est plutôt un jeu qui se fait pratique aux États-Unis. Le but, c'est, on vous donne une réponse et vous devez deviner la question qui correspond à la réponse. Mine de rien, quand on approfondit un peu, c'est très compliqué à faire, ça. C'est des raisonnements qui sont d'abduction, c'est beaucoup de sémantique, etc. Or, ce qu'on a toujours pensé, c'est que l'IA, elle pourra gagner des jeux comme les échecs, parce qu'en gros, c'est rationnel, c'est des mathématiques, mais s'intéresser au langage, qu'une IA puisse comprendre le sens du langage, c'est impossible. Eh ben, avec Watson, on y arrive en bonne partie, avec des techniques d'apprentissage automatique, et entre autres. 2015, vous voyez, ça se rapproche. On bat le champion au Go. Alors, quand j'étais étudiant, on me disait, oh bon, ok, on va peut-être arriver à faire une IA qui gagne aux échecs. Mais alors, le Go, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible, c'est trop compliqué, il y a trop de combinaisons, c'est holistique, laisse tomber le Go. Ok, Google, ah oui, je devais pas dévoiler les Skynet. L'entreprise, moi c'est marqué là, DeepMind crée AlphaGo qui bat donc le grand champion de Go. Et là, c'est la stupeur. Et c'est pas fini. En 2019, vous avez un jeu qui s'appelle StarCraft. Alors, je sais pas s'il y a des joueurs parmi vous, j'ai l'impression qu'il y en a là. Voilà, il y a des joueurs, donc ils connaissent la difficulté, ils savent ce que c'est que d'arriver à gérer un environnement incertain, planification à long terme. Enfin, d'un point de vue cognitif, c'est très compliqué de jouer à StarCraft. Eh ben, vous avez une IA qui commence à être parmi les meilleurs joueurs au monde de StarCraft. Et vous voyez, ça s'accélère. Je veux pas vous faire peur, hein, mais 97, 2011, 2015, 2019. Alors, du coup, les entreprises potentielles, Skynet, ça pourrait être IBM, ça sera peut-être Google avec DeepMind. Mais c'est pas fini. Parce qu'en 2019 également, on a plein de bonnes nouvelles cette année. Hein. En 2019, vous avez aussi Facebook qui construit une IA qui bat les champions de poker, les meilleurs joueurs de poker au monde. En plus, alors moi j'y connais rien, mais je crois que c'est Texas Hold'em. Mais enfin, en tout cas, c'est à 6 joueurs. Il paraît que c'est très compliqué. Et ben, c'est pareil, une IA. Et là, ce qui est épatant, c'est que l'IA, non seulement elle est rationnelle, non seulement elle joue et elle gagne, mais en plus, elle bluffe. Vous avez une IA qui bluffe. Vous imaginez le truc. Donc là, on commence à se poser des questions. Ou alors, si au contraire, on trouve que tout ça, c'est des bonnes nouvelles, on se réjouit de plus en plus. Donc, c'est Facebook avec une très bonne université. Carnegie Mellon, je signale que cette université était aussi à l'origine de Deep Blue. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour planter le décor. L'IA progresse de façon relativement exponentielle. Enfin, certains se disent cela. Alors maintenant, essayons de définir un peu ce que c'est que l'IA. Alors, comme l'a bien expliqué Franck, c'est au départ l'ensemble des théories et techniques qui permettent de rendre les machines, entre guillemets, intelligentes. En fait, elles ne le sont pas, on va dire qu'elles simulent l'intelligence. Au sens où elles vont réaliser un certain nombre de fonctions qu'on va attribuer à l'intelligence humaine. Ou animale, parce que vous savez qu'il y a des animaux qui sont intelligents aussi. Et comme donc l'a dit Franck, ça démarre dans les années 50. D'abord, il y a les travaux de Turing, évidemment, faut pas oublier rendre hommage à Turing, ce grand génie de l'informatique et de l'IA et sa machine, précurseur ensuite des travaux qui ont démarré effectivement en 1956. Et comme l'a dit également Franck, il y a eu des hauts et des bas, ça a eu un énorme succès, on le voit bien puisque Stanley Kubrick, quand il fait 2001 Odyssée de l'espace dans les années 60, ben, 70, il est persuadé que dans 2000, on aura HAL 9000, l'ordinateur extrêmement performant, qui a des émotions, etc. Bon, on n'y est pas encore tout à fait. Après, il y a eu forcément une déception parce qu'il y avait eu beaucoup d'attentes. Et maintenant, ça repart énormément avec la science des données. Il y a des données que je vais représenter dans un instant. Donc, les fonctions intelligentes qu'on attribue en général à l'IA sont... Alors, j'ai fait une sélection, il y en a plein. Hein, mais les principales, c'est l'apprentissage, hein, le fait d'apprendre des nouvelles choses à partir d'anciennes choses. La perception, la communication, la prise de décision et l'action, les interactions et le raisonnement. Voilà. Le raisonnement, c'est construire, encore une fois, des connaissances à partir d'anciennes connaissances. Alors, voilà, là, je vous indique un certain nombre de domaines de l'IA qui mettent l'accent sur une fonction en particulier. Donc, tout ce qui est réseau de neurones et science des données, c'est l'apprentissage. Tout ce qui est reconnaissance des formes, quand votre portable vous reconnaît pour s'ouvrir ou reconnaît votre parole, c'est la perception. La communication, c'est les chatbots, c'est-à-dire ces petits programmes qui maintenant vont remplacer les conseillers clientèle dans les banques et les services clients. les petites aides là qu'on a à chaque fois pour appeler les services clients automatiquement avec des petits dialogues, ça c'est les chatbots, les robots bien sûr, les systèmes d'aide à la décision pour la décision, les systèmes multi-agents qui mettent l'accent sur l'interaction entre les entités, et puis ben la réponse aux questions type Watson, c'est par exemple un exemple de raisonnement. Voilà. Donc ça c'est ça en fait, il y a hein, c'est réaliser des fonctions que l'humain dit intelligent réalise. Alors après on peut aller un petit peu plus loin. Et quand on va un peu plus loin, on va distinguer trois types d'IA. Alors, en fait, suivant le degré, en fait, de force, on va dire, de cette IA. Donc, l'IA la plus simple, c'est l'IA faible ou l'IA restreinte. Dans cette IA-là, le système, il est capable juste d'être très performant, mais pour une tâche particulière. Par exemple, Deep Blue est très bon aux échecs. Mais il est incapable de jouer à Jeopardy ou à StarCraft. D'accord? Donc, toutes ces IA, en fait, qui triomphent actuellement, ce ne sont que des IA restreintes. Elles sont très fortes, mais uniquement pour une tâche donnée. Elles sont pas capables de faire la cuisine, elles sont pas capables de vous parler quand elles jouent aux échecs, etc. Alors évidemment, certains disent il faut aller plus loin et on voudrait avoir des IA générales qui soient capables de faire une performance, mais dans plusieurs tâches, puisque c'est ce que nous faisons. Capables de résoudre de nombreuses tâches, capables d'être conscientes, tiens, ça nous rappelle Skynet, capables d'avoir des émotions, des sentiments, etc. Donc on mime de plus en plus l'ensemble de ce qu'est l'intelligence humaine. Mais on s'arrête au niveau de l'humain. Il y en a qui disent, ok, bon, l'humain c'est bien, mais pourquoi ne pas faire des IA plus fortes que les humains qui nous aideront justement à résoudre des problèmes que les humains n'arrivent pas à résoudre? Et force est de constater qu'on a des problèmes dans nos sociétés, dans nos économies, etc. On n'est pas capable de tout résoudre. Donc les gens qui pensent ça, ils pensent pas à mal. Ils se disent, bah, finalement, faisons des IA plus performantes. Et là, c'est la super intelligence. Et oui. Et donc là, bah, on va pas se limiter. On va être supérieur aux humains les plus brillants. Donc des systèmes qui vont s'auto-améliorer, se reproduire. Et là, évidemment, le risque, c'est Skynet. C'est-à-dire que c'est qu'à un moment donné, les humains, les IA, si elles sont très intelligentes, voire plus intelligentes que nous, elles vont se dire, pourquoi on s'embarrasserait? Alors dans Matrix, ils ont proposé une solution. Je vous spoil pas le film, si vous l'avez pas vu, qui est un peu violente pour s'utiliser quand même les humains, hein. Skynet a dit, moi je m'en débarrasse. Donc toute cette littérature de science-fiction, moi je la prends pas du tout à la légère. Elle est au contraire très intéressante parce qu'elle donne des pistes finalement de réflexion assez créative sur ce que ça pourrait donner ou pas. Alors, pour compléter ce paysage de description de l'IA, je vous proposerai également quelques critères pour classer les systèmes d'IA. Le premier, c'est est-ce que la façon dont le programme d'IA fonctionne reproduit vraiment ce que fait l'être humain ou pas. Par exemple, le système d'échecs type Deep Blue ou d'AlphaGo ne reproduit absolument pas la façon dont Kasparov ou le champion de Séoul, dont je ne me rappelle plus le nom, Seidel, je crois qu'il s'appelait, Seidel, oui, c'est ça, joue aux échecs. Donc, il n'y a aucun mimétisme, enfin, très peu de mimétisme. Ce sont des systèmes totalement différents. La machine, elle calcule très vite des milliards de combinaisons possibles que l'humain n'est pas capable de calculer. Par contre, l'humain, il est capable de voir des raccourcis. Il a une pensée qu'on appelle globale, holistique. Il fait des raccourcis. Il s'est donné des règles, que la machine n'a pas, et du sens que la machine n'est pas capable d'avoir. Donc, pas de mimétisme dans ce cas-là. Moi, comme je vous l'expliquais, je cherche plutôt le mimétisme dans mes IA parce que justement, je veux étudier les humains. L'autonomie, est-ce que le système est autonome? Évidemment, plus il est autonome, plus il y a une indépendance et il y a le risque qu'il y ait une singularité. Est-ce que il y a de l'interaction? Alors, il peut y avoir de l'interaction avec l'être humain, avec son environnement, comme un robot par exemple, qui explore une planète, ou alors des interactions entre les IA. C'est ce que font les systèmes multi-agents dont je vais vous parler. Et puis, un point qui est très important, c'est l'explicabilité. Parce que quand ces systèmes deviennent autonomes et prennent des décisions à notre place, on a un peu envie de savoir pourquoi ils prennent des décisions à un moment donné, on a envie un peu de comprendre comment ils fonctionnent, ne serait-ce que pour un petit peu les contrôler, par exemple. Donc ça, on va voir que c'est un critère important, et dont Franck a bien sûr parlé. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous présenter, je vais opposer, parce que, voilà, c'est pour le... Il y a plein de visions hein, en IA, mais il y a quand même deux approches moi qui m'intéressent ce soir de vous présenter. C'est l'approche donc des sciences des données, qui est l'approche dominante actuellement en IA. C'est cette approche-là qui a du succès, qui fait le AlphaGo, qui fait StarCraft, qui a dans vos téléphones portables, etc. Et puis, vous avez également ce que moi je défends, qui n'est pas forcément antinomique, ça peut être complémentaire, mais qui n'a pas vraiment les mêmes buts, qui est ce que j'appelle l'IA des comportements. Alors, dans l'IA des sciences des données, c'est essentiellement faire des réseaux de neurones artificiels. Donc en fait, c'est une métaphore, c'est une inspiration biologique au départ, neurobiologique, du fonctionnement du cerveau humain. On sait qu'on a des neurones, qu'on a des connexions entre les neurones, qu'il y a des signaux électriques qui se diffusent, et on a pris alors un fonctionnement extrêmement simplifié des vrais neurones biologiques, et on en a fait un système de calcul. Ce que fait exactement un réseau de neurones, grosso modo, c'est des corrélations entre des entrées et des sorties. C'est-à-dire que on va apprendre sur un jeu de données une relation entre, par exemple, quelque chose qui représente une image très brouillée ou des signaux, et puis le nom d'une personne. Et on va essayer de détecter, par exemple, pour vous reconnaître sur votre téléphone, je vais prendre plein de photos de vous, et puis je vais analyser les photos, je vais essayer de trouver les traits qui sont caractéristiques, qui sont communs à toutes ces photos, et ensuite je vais trouver les corrélations entre ces traits que je peux construire en interne dans mon réseau de neurones et une étiquette qui sera c'est lui ou c'est elle. Donc ce n'est rien d'autre qu'un système qui calcule des corrélations statistiques entre des entrées et des sorties. C'est ça. Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que bien que ça ne soit que ça, ça a énormément de succès. Vous reconnaissez, AlphaGo, on en a déjà parlé. La voiture autonome, elle fonctionne essentiellement avec ces techniques. Les assistants, type Siri et autres, la reconnaissance faciale, on en a parlé, notamment sur Facebook. Et puis là, c'est assez drôle, c'est un livre sur l'apprentissage profond. Alors, l'apprentissage profond, c'est la technique qu'on appelle en anglais deep learning, qui est, parmi les réseaux de neurones, celle qui est la plus efficace pour l'apprentissage. Et là, vous avez un livre en français qui a été obtenu en traduisant, grâce à des réseaux de neurones, un livre en anglais sur le domaine des réseaux de neurones. Voilà. Bon, les informaticiens, de temps en temps, ils s'amusent bien. C'est un système qui fonctionne très bien vous avez des programmes comme DeepL. Je sais pas si vous connaissez le site DeepL. Bon, c'est redoutable. Ça pourrait mettre au chômage tous les profs de langue parce que, en traduction de texte, c'est extrêmement performant. Donc, ces systèmes, en fait, ils ont du succès parce que c'est légitime. Ils fonctionnent très, très bien. Ils sont extraordinairement performants, alors qu'en fait, encore une fois, ce ne sont que, alors quand je dis ce ne sont que, j'exagère un peu, mais grosso modo, essentiellement, c'est ça, c'est des systèmes de corrélation entre des entrées et des sorties. Alors, ça fonctionne tellement bien que maintenant, les entreprises les utilisent pour d'autres choses que juste de la reconnaissance de forme. Par exemple, vous avez des banques, on ne citera pas les noms, mais il y a également des banques françaises, des grandes banques françaises, qui utilisent ces systèmes pour décider s'ils vont vous accorder un prêt bancaire ou pas. Alors c'est simple, vous prenez tous les dossiers de prêts bancaires que vous avez en mémoire, vous apprenez les dossiers des gens qui ont bien remboursé leur prêt, les dossiers qui ont mal remboursé votre prêt, et après vous utilisez votre réseau de neurones, vous rentrez les caractéristiques du dossier du client, et puis il vous dit, lui, il est plutôt proche des gens qui ont bien remboursé, donc c'est bon, on peut lui donner un prêt, sinon on peut pas. Voilà. Donc de plus en plus, vous avez ces systèmes qui sont utilisés, alors on vous le dit pas encore, mais je le sais qu'ils le sont, également pour détecter les fraudes à l'assurance et ce genre de choses. Et encore une fois, ça marche, c'est-à-dire que ça donne des taux de prédiction de bons ou de mauvais clients supérieurs à ce que faisaient les anciens systèmes. Mais il y a aussi les échecs. Alors là, c'est un gros échec qui a quand même un peu impacté toute la planète. Aujourd'hui, on peut en parler puisque Donald Trump vient de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Donc l'échec d'Hillary Clinton ne touche pas malheureusement que les États-Unis. Alors c'est intéressant cet échec d'Hillary Clinton parce que figurez-vous que c'est en partie, on peut dire, à cause d'une IA. En effet, l'équipe d'Hillary Clinton avait utilisé ces mêmes réseaux de neurones pour décider, notamment en fin de campagne, dans quelle ville il fallait intervenir, il fallait mettre le paquet. Et donc, on apprenait les profils des électeurs dans les différentes villes parce qu'ils pouvaient plus être partout. Et on essayait, grâce à ces systèmes d'apprentissage, de déterminer non seulement s'il fallait intervenir dans cette ville, mais en plus, qui il fallait mettre. Ça allait très loin. On disait, dans cette ville, tel jour, il faut mettre Jay-Z, là, faudra mettre Beyoncé, là, faudra mettre, etc., etc. Donc, c'est Obama, etc., etc. Donc, c'était la machine qui faisait ça. Le problème, c'est que cette machine, elle a appris sur les données qu'il y avait. Mais évidemment, elle n'a pas réussi à apprendre ce que personne n'avait réussi à prédire, en tout cas, notamment dans le camp d'Hillary Clinton, c'est-à-dire ce phénomène des rednecks américains blancs qui se sentaient déclassés et qui ont fait basculer l'élection pour Donald Trump. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en face, Donald Trump avait aussi une IA du même type, conçue par le fameux Cambridge Analytics, qui fait d'ailleurs un petit peu parler en ce moment. Il paraît qu'ils auraient des accointances avec les Russes, mais je ne vous ai rien dit. Je ne veux quand même pas avoir des ennuis, surtout qu'il paraît que c'est enregistré. Ouais, là, je crois que c'est trop tard. Bon, adieu. Et donc, Et donc, c'était aussi une IA qui servait à profiler les électeurs pour savoir quels sont ceux qu'il fallait démarcher en priorité ou pas. Apparemment, elle était mieux réglée, cette IA, puisqu'elle a bien compris qu'il fallait déplécher la fameuse classe moyenne qui se sentait délaissée. Alors voilà, c'est des techniques qui sont utilisées par un candidat aux dernières élections présidentielles, dont je ne dirai pas le nom, si ce n'est qu'il est actuellement président de la République. Donc c'est finalement une IA contre une autre IA, cette élection. Et les gens prédisent que ça va être de plus en plus le cas. C'est-à-dire que bientôt, vous n'aurez plus de campagne, vous aurez les IA qui lutteront contre les autres IA. Ben, c'est bien, on ira se promener, on ira à la pêche, et puis on verra laquelle qui gagnera. Voilà, que des bonnes nouvelles ce soir. Hein. Vous êtes contents d'être venus. Alors, je continue. Je vous parle de l'explicabilité à nouveau, parce que c'est très important. Reprenez l'exemple du dossier bancaire. Vous êtes allé à votre banque, vous avez rempli un petit questionnaire. Bon, on vous fait croire que c'est traité à la main, mais c'est l'IA qui la traite. Et puis, on vous dit, votre dossier est refusé. Alors, vous comprenez pas, vous avez un bon salaire, vous avez un bon profil, vous comprenez pas. Donc, vous dites, mais pourquoi? Et alors là, ils sont bien embêtés, parce qu'en fait, ils peuvent pas vraiment vous dire pourquoi, ils savent pas pourquoi. En fait, la vraie raison, c'est que le neurone numéro 58 devait recevoir un signal à 0,6 pour pouvoir vous accorder le prêt. Mais il a reçu 0,55. Et donc, il vous refuse le prêt. La vraie raison, grosso modo, c'est de ce type-là, pour l'instant. Donc, c'est là où on est un peu embêté avec ces IA, c'est que finalement, les plus performantes, c'est celles qui sont les moins explicables, et ça va poser quand même un problème. Alors que, bien sûr, les IA qui, elles, ne sont pas uniquement à base de données, mais à base de comportements et de symboles, comme celles que j'essaie de pratiquer, elles ont été conçues dès le départ pour être naturellement explicables. Donc, c'est le fameux symbole de la boîte noire. Les réseaux de neurones sont très performants, mais on ne sait pas du tout expliquer leur comportement. Ça commence à être un gros problème sociétal, parce que, en particulier, évidemment, on va y avoir des problèmes juridiques. C'est-à-dire que vous allez contester. Si on n'est pas capable de vous dire pourquoi on vous refuse un prêt, c'est important un prêt pour se loger, pour investir, etc. Vous allez contester et on a plein de problèmes juridiques qui vont se poser. Alors, l'Union européenne est consciente de ça puisqu'elle a, assez tôt, en 2016, sorti une directive sur le droit à la compréhension des décisions automatisées. Je vous ai mis le lien parce que c'est un texte très important qui oblige les entreprises qui utilisent ces systèmes à les rendre explicables, à faire que ces systèmes de décision doivent pouvoir être expliqué, justifié. Alors, c'est une directive qui malheureusement n'a pas encore été transcrite en loi dans la plupart des pays européens à ma connaissance. Ça traîne un peu. Bon, je vous invite, vous citoyens, à faire pression pour que ça le soit, parce que ça me paraît absolument fondamental. Alors, face à ce problème, moi je milite plutôt pour une autre IA, qui est donc l'IA des comportements. C'est-à-dire que plutôt que ramener un domaine ou un système ou un problème à juste des corrélations entre des entrées et des sorties, je propose de modéliser explicitement les comportements des gens avec des mécanismes, modéliser les décisions, etc. Alors, je vais essayer de vous montrer maintenant comment ça peut fonctionner. Peut-être pour vous illustrer ça, juste pour commencer, si on s'intéresse par exemple au marché du travail, dont je vais vous parler, le marché du travail, les réseaux de neurones, ce qu'ils vont faire, par exemple, c'est qu'ils vont essayer d'apparier des chômeurs avec des postes, puisqu'on sait qu'il y a des postes vacants et qu'on n'arrive pas à parier. Donc on va essayer d'apprendre les profils de recrutement des entreprises et on va essayer de suggérer ensuite à des chômeurs de prendre tel ou tel poste pour essayer de fluidifier le marché. Quand on fait ça, en fait, on regarde une fois les corrections statistiques, si l'économie change, si la conjoncture change, le réseau ne pourra pas le deviner, il faudra tout réapprendre. Et on n'a rien compris en fait sur le marché du travail. On a juste regardé des corrélations. Et comme Franck aussi l'a expliqué, une corrélation, ce n'est pas une causalité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les causalités, parce que je pense que pour comprendre les systèmes complexes, comme les systèmes humains, il faut s'intéresser aux causes et pas juste aux conséquences ou aux corrélations. Alors pour ça, il y a un outil qui s'appelle la simulation multi-agent. Vous reconnaissez un vieux jeu qui s'appelle Second Life, c'est juste parce que je trouve que l'image illustre bien ce que je vais vous raconter. Alors le point de départ de la simulation multi-agent, c'est, comme l'a dit Franck, les systèmes multi-agents. Alors de quoi s'agit-il? C'est effectivement une réalisation informatique d'une intelligence artificielle, mais qu'on appelle distribuée. Pourquoi? Parce qu'elle est distribuée dans les agents. Il n'y a pas un seul agent qui fait tout, elle est distribuée dans les différents agents. Donc, vous avez des agents, c'est des programmes, en fait, c'est des bouts de programmes qui sont autonomes, qui sont indépendants et qui sont en interaction. Les agents sont situés physiquement dans un environnement, je vous donnerai des exemples. Ils vont communiquer entre eux, ils interagissent. Et ils sont autonomes et proactifs. Autonomes, ça veut dire que bah, ils ont leurs propres ressources, ils ont leurs buts, leurs objectifs, leurs connaissances. Ils peuvent décider de partager leurs connaissances ou pas. Ils sont autonomes. Et proactifs, ça veut dire, ça c'est très important, ça veut dire que ils ont leurs propres buts. Donc on n'a pas besoin de leur dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Une fois que vous lancez le SMA, les agents se débrouillent et ils communiquent, ils interagissent, etc. Et puis alors, de façon plus complexe, on peut avoir différents types d'organisations, de structures. Donc, c'est des systèmes qui sont intéressants pour représenter justement des sociétés, des économies, tout ce qui est structuré de façon générale. Encore une fois, je vais vous expliquer ça dans un instant. Voilà, une petite image. Donc, vous avez un agent qui a des buts, qui a une représentation du monde et qui communique avec un autre agent, qui communique avec l'environnement, etc. Alors, par exemple. Voilà deux agents qui communiquent. Alors là, ils s'affrontent un peu. Il y en a un qui fait de l'agriculture biologique. Donc, son but, c'est de produire en minimisant l'impact sur l'environnement, en prenant des produits bio, etc. Et l'autre, il fait de l'agriculture intensive. Donc, son but, on peut l'imaginer, c'est d'avoir des rendements et d'utiliser le glyphosate avant qu'il soit interdit. Voilà. Alors après, ils interagiront. Là, on imagine de façon peut-être un peu conflictuelle. Bon, on ne sait pas. Ou peut-être qu'ils arriveront à trouver un terrain d'entente. Donc, comme je vous disais, on peut faire des hiérarchies, on peut avoir des systèmes multi-agents qui ensuite interagissent avec d'autres systèmes multi-agents, on peut avoir plusieurs niveaux de granularité. Par exemple, ici, je représente l'économie européenne. L'économie européenne, c'est d'abord des pays. Un pays, ça peut être composé par un système multi-agents avec des entreprises. Et puis ensuite, une entreprise, ben, c'est une organisation avec des employés qui interagissent à l'intérieur, etc. Donc, on voit bien que ce genre de système va, c'est les approches systémiques, structurées, qui permettent de représenter. Donc, par exemple, si vous faites de la décision politique, vous allez dire, bah, je représente l'État, la région, le département, la communauté de communes, commune. Alors, on sait que c'est compliqué, ça, hein, parce qu'il y a souvent des interactions entre plusieurs niveaux, des décisions qui se prennent à certains niveaux et pas à d'autres. Bah, ces systèmes, ils sont assez flexibles pour pouvoir représenter ce genre d'organisation. Voilà. Alors, en fait, vous avez peut-être déjà vu des systèmes multi-agents sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain, notamment si vous jouez aux jeux vidéo, si vous regardez certains films. Dès qu'il y a des batailles, dès qu'il y a plein, 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 plein d'agents sur une image et qui bougent, bah, c'est toujours des systèmes multi-agents. Dès que vous avez des foules dans des stades, que ce soit dans des films, dans des jeux vidéo, c'est des systèmes multi-agents. Donc, le cinéma et les jeux vidéo, on les utilise depuis longtemps. Mais ça sert aussi à plein de choses. Par exemple, ici, vous avez un projet d'Amazon qui est maintenant, je crois, déployé, d'avoir des drones qui interagissent entre eux pour ensuite optimiser la livraison des colis. Vous avez des systèmes qui interagissent pour explorer Mars. Ça, c'est des simulations de transport routier. Et ça, c'est de la finance, je crois. Donc, voilà, ces systèmes commencent à être maintenant de plus en plus utilisés. Bon, d'accord, ça c'est les systèmes multi-agents. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire simuler? Bah, la simulation, c'est la mise en œuvre en fait de ces systèmes multi-agents sur un problème qui vous intéresse. Donc, vous avez un problème, un phénomène à étudier, expliquer, un comportement à prédire, et donc vous modélisez ce système complexe à l'aide d'un système multi-agent. Vous programmez et vous faites tourner ça sur une machine. Donc, quand vous le faites tourner sur la machine, bah, vous simulez votre modèle avec des données réelles, si possible. Alors, si vous voulez que votre modèle ou votre système de simulation dise quelque chose sur la réalité, ben, à un moment donné, il faut des données réelles pour calibrer les paramètres du modèle sur cette réalité. Et puis après, ben, vous analysez les résultats. Alors, on parle d'une MOSIMA, modélisation et simulation multi-agents, pour dire qu'il y a à la fois la modélisation, le fait de comprendre le réel, de le traduire sous la forme d'un système multi-agent, et puis la simulation pour le mettre en œuvre. Alors, je vous ai mis le lien notamment vers un cours, si ça vous intéresse, puisque donc j'ai créé depuis plusieurs années un cours dédié à la MOSIMA, dans le Master 2 informatique de Paris 6. Enfin, pardon, on ne dit plus Paris 6, on dit Sorbonne Université. Et puisqu'on a fusionné avec Paris 4, bon, enfin bref, ça ne vous intéresse pas du tout, c'est les histoires de Parisiens. Et voilà. Et donc, si vous voulez, vous pourrez aller voir plus de détails sur MOSIMA dans ce cours donc de M2 informatique. Mais je vais quand même vous donner déjà quelques petites illustrations avec un premier exemple. En fait, pour moi, le point fort de ces systèmes, de ces MOSIMA, c'est d'arriver à bien capturer qu'on appelle l'émergence. L'émergence, c'est quand vous avez des actions individuelles qui sont, bon, disons des systèmes individuels qui ont des actions. Au niveau individuel, ça n'a pas forcément d'impact, mais quand ça se fait en nombre dans un système collectif, quand vous avez plein d'agents qui font la même chose ou qui font à peu près la même chose, ben ça fait émerger des comportements collectifs qui seraient pas forcément explicables ou prévisibles si on considère uniquement le comportement individuel. Alors, un bon exemple, c'est cette image. Alors, savez-vous ce que ça représente? C'est encore issu d'un, enfin, c'est encore une allusion à un film. Le film s'appelle Slumdog Millionaire et vous avez ici, malheureusement, un bidonville situé donc à côté d'Inde, donc d'Aravi. C'est le bidonville justement qui a été pris comme modèle par Danny Boyle pour le film donc Slumdog Millionaire. Bon, et donc des gens s'entassent, on va dire, là-dedans, avec certainement une ségrégation sociale. Hein, c'est rarement les riches qui vivent dans les bidonvilles, mais ces phénomènes de ségrégation sociale et urbaine, vous les trouvez dans la plupart des grandes capitales françaises, françaises mondiales, mais aussi en France, évidemment. Donc là, vous avez la carte de Chicago, vous avez la carte de la baie de San Francisco, et la couleur représente l'origine ethnique, puisqu'aux États-Unis, on fait des statistiques ethniques sans problème. Et donc, on voit que les gens se regroupent suivant leur origine ethnique. Si vous faites on peut faire la même chose avec le niveau de revenus, avec le niveau d'éducation, etc. On a le même genre de carte. Donc, les gens ont tendance à se regrouper suivant leurs propres caractéristiques, et ça crée des phénomènes un peu de ghettoisation, des phénomènes de banlieue qui sont abandonnés, ségrégés, etc. Donc, on considère que c'est un problème, mais on n'arrive pas forcément bien à le résoudre, comme vous avez dû le remarquer. Déjà, la question, c'est comment on peut l'expliquer? Alors, la première explication, c'est de se dire, les gens sont racistes. Après tout, pourquoi pas? C'est humain. C'est-à-dire, les gens ont tendance à préférer d'être avec des gens un peu comme soi, autour de soi. C'est une possibilité, mais ce serait un peu triste pour l'humanité. Alors, est-ce que c'est le cas? On va voir. Il y en a un qui a eu une bonne idée pour essayer d'étudier ce problème, c'est Thomas Schelling, c'est un économiste. Il n'a pas vraiment fait de modèle multi-agent, il a fait son modèle sur papier, il l'a simulé entre guillemets sur papier, mais après il a été reproduit avec des systèmes de simulation multi-agent. Thomas Schelling, il essaye de comprendre ce phénomène de ségrégation urbaine. Et il se dit, comment se fait-il que des quartiers vont être totalement uniformes alors que ce n'est pas forcément des gens racistes au départ, ce n'est pas forcément ce que souhaitaient les habitants. Pour essayer de comprendre ça, il fait un modèle très simple. Il dit, voilà, j'ai des agents, des individus, et je dis que si jamais autour de moi, dans un voisinage, donc je regarde les gens qui sont autour de moi, s'il y a un pourcentage de gens comme moi qui devient inférieur à un certain seuil, si j'ai pas assez de gens autour de moi qui sont comme moi, alors je déménage. Bon, ça paraît pas aberrant comme idée. Surtout si on est sur des pourcentages faibles. Par exemple, je pense que vous et moi, on aurait tendance à dire, oui, j'aimerais bien quand je vais dans un quartier qui est 20% de gens comme moi, à peu près. Voilà, 20%, ça veut dire qu'il y a 80% des gens qui ne sont pas comme moi. Donc, on peut imaginer que ce n'est pas vraiment un comportement de racisme, c'est quelque chose qui paraîtrait assez raisonnable. Donc, il essaye de faire un modèle. Alors, pour simplifier, il met que deux catégories, au lieu d'en avoir plusieurs origines, excusez-moi, il en met que deux. Donc, il y a les rouges et les verts. Et il utilise ce petit modèle. Et finalement, le seul paramètre de ce modèle, en fait, il y a deux paramètres. Il y a la densité au départ, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de la place pour bouger ou pas dans la ville, qui est représentée ici en 2D. Et puis, le pourcentage de gens que je souhaite avoir comme moi, autour de moi. Et alors, ce qui est très intéressant, et c'est ça où je parle de l'émergence, c'est qu'il montre, grâce à cette petite simulation, qu'en fait, il suffit pas d'être raciste pour avoir des taux de ségrégation très fortes. Au final, il y a un effet de multiplication énorme. Vous voyez, si je veux 10 personnes autour de moi, maximum, comme moi, c'est pas énorme, c'est rien. Et si tout le monde fait ça, on se retrouve avec 57% de gens similaires. À 20% de gens comme moi, 61%. Et dès qu'on atteint 50%, on arrive pratiquement, ou 60%, on arrive à 100%. On a une croissance qui est donc évidemment plus que linéaire. Donc ça c'est très intéressant, et c'est ainsi Schelling qui dit, voilà, on n'a pas besoin d'être raciste pour expliquer la ségrégation, c'est juste que si tout le monde est un peu, une petite exigence, même faible, le fait que tout le monde le fasse, eh bien collectivement il y a une émergence de ségrégation. Et moi c'est ce genre de modèle qui m'a fait en donner envie de travailler dans ce domaine, parce que je trouve ça absolument remarquable qu'un modèle aussi simple arrive à trouver quelque chose d'aussi puissant. Alors après, ça a donné lieu à d'autres domaines de recherche, évidemment. La simulation urbaine est comment dirais-je, un domaine très actif dans la simulation multi-agent. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, la simulation multi-agent, elle se déploie aussi de plus en plus. Alors, cela dit, je parle quand même d'une discipline extrêmement jeune, hein. Les systèmes multi-agents, c'est apparu dans les années 90, 2000. Et la simulation multi-agent, ça commence à décoller depuis 2000-2010. Donc, vous voyez, on a une discipline qui a 10 ans, quoi, 10 ans, 20 ans. Donc, on est au niveau de la mécanique newtonienne, à l'époque où Galilée s'est pris, non, pardon, où Newton s'est pris sa pomme sur sa tête, quoi. On est à peu près à ce niveau-là, quand même, au niveau de la physique. Donc, on est une discipline très nouvelle, mais prometteuse, bien évidemment. Alors, par exemple, si vous avez la simulation de comportement de piéton, là, vous reconnaissez peut-être un ancien, alors c'est un ancien chercheur de Rouen, bon il n'est plus à Rouen, Patrick Taillandier, mais qui avait fait notamment de la simulation, donc ça apparemment c'est un pont à Rouen, normalement c'est chez vous, si je ne me suis pas trompé d'image. Voilà, donc il avait fait tout un projet pour essayer de simuler et d'améliorer le trafic dans la métropole rouennaise. Et voilà, donc ça c'est des systèmes de partage de ressources, les systèmes multi-agents, la simulation sont utilisés quand par exemple vous avez des conflits entre des paysans, entre des chasseurs, entre des exploitants de ressources naturelles, et on essaye de les mettre autour d'une simulation pour notamment la simulation participative, hein, Franck, tu en as parlé, pour essayer de trouver des compromis. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes projets. Donc, alors je vais surtout développer la partie marché du travail parce que je peux pas développer tout en si peu de temps, mais je vais quand même vous citer un peu d'autres choses qu'on peut faire. Donc là, par exemple, dans l'étude de simulation sociale, c'est-à-dire l'étude de phénomènes sociaux, on avait fait un projet avec Airbus Defence and Space. Alors c'est la branche militaire d'Airbus, et là l'objectif c'était de les militaires commençaient à réaliser. On l'a bien vu avec les problèmes en Irak, etc., toutes les guerres du Golfe, etc., que c'est pas tout de gagner une guerre militairement, mais il faut quand même tenir compte un peu ensuite de la population. Si la population n'est pas associée ou n'est pas quelque part même prise en compte, ne serait-ce qu'un minimum, on arrive à des échecs. Bon, c'est bien d'avoir réalisé ça. À ce moment-là, on a essayé de faire un système où on a une population qui est un petit peu entre deux feux, c'est-à-dire entre une armée type ONU ou américaine qui débarquent dans leur pays, et puis des gens qui sont un peu rebelles. Alors certains les appelleraient terroristes, hein, ça dépend de son point de vue. Et voilà, et on a essayé de faire un système pour essayer de voir comment les opinions des gens, les attitudes de la population évoluaient en fonction des actions des deux forces, donc les forces on appelait voilà les forces dont je vous ai parlé. Un autre travail, donc c'est donc la première, donc premier c'était la thèse de Kay Bruce Misch, thèse de Kevin Chepuis. Donc là c'était la satisfaction au travail. Donc là aussi c'est un enjeu important. Vous savez que de plus en plus il y a du stress au travail, il y a les risques psychosociaux, il y a les problèmes de burn-out, de bore-out, etc. Donc avec le cabinet Technologia qui est le cabinet le plus en pointe sur ces questions, on a essayé de faire un modèle pour modéliser la satisfaction au travail des employés. Bon, c'est un vaste vaste programme aussi. Et puis, la diffusion d'innovation qui est importante aussi parce qu'on peut l'utiliser dans plein de contextes. Là, c'était avec Orange Labs. Vous avez un nouveau smartphone. Là, on avait travaillé sur le lancement de l'iPhone. Vous avez un nouveau smartphone, un nouveau produit qui arrive sur le marché. L'entreprise veut savoir si ça va être adopté ou pas par des clients. Mais ça peut être aussi adopté ou voté pour un candidat ou adopter un geste écologique de tri sélectif. La concomitance des deux est purement fortuite. La diffusion d'innovation, c'est aussi un processus social extrêmement important que les simulations maintenant arrivent à traiter. Donc, c'est ce qu'on a fait dans ce modèle. Voilà. Et puis, alors après les sciences sociales, ben donc l'économie et le marché du travail. Donc, c'est le simulateur Worksim. Donc, c'est un projet de longue haleine. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille maintenant sur ce simulateur, et au bout de 10 ans, on a commencé à avoir des résultats. Donc, vous voyez, il faut quand même être patient, parfois en science. Je vous mets ici l'adresse du site où on met différentes choses. Vous verrez. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de représenter ce qui se passe sur un marché du travail. Enfin, l'objectif, au final, c'est de comprendre comment il fonctionne, pourquoi il y a du chômage en France, et puis comme on va le voir, lorsque quelqu'un, par exemple, un gouvernement propose une loi pour essayer d'améliorer le marché du travail, est-ce qu'on peut prédire son effet? Donc, dans le marché du travail, ben, si on regarde la réalité, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté les entreprises qui proposent des postes, et puis on a les individus qui soit travaillent, soit cherchent du travail. Donc on a les deux côtés, évidemment, dans WorkSim. On va avoir des agents hétérogènes, hein, parce que si on met tous les agents pareils, ça n'a aucun intérêt. Et on va prendre des agents qui ont un comportement psychologique, cognitif, réaliste. Ici, réaliste, ça veut dire en particulier que on n'a pas une capacité extraordinaire pour prendre des décisions avec un niveau d'imbrication infini sur un temps infini. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans les modèles économiques, la plupart de l'économie est fondée sur des modèles qu'on appelle les modèles néoclassiques ou mainstream, qui sont des modèles dans lesquels on fait des hypothèses sur la rationalité humaine assez, j'allais dire, un peu délirantes, en tout cas, malheureusement, complètement fausses. C'est-à-dire, si vous demandez à un psychologue cognitif si ces modèles sont réalistes, il vous dira non et vous démontrera scientifiquement pourquoi. Parce qu'il y a des expériences maintenant qui ont été faites en psychologie cognitive. La psychologie, c'est une science expérimentale robuste. Donc, on sait que ces modèles sont faux. Et pourtant, on les utilise et c'est ça qui tourne dans tous les organismes économiques de décision mondiaux. Hein. Banque centrale, Banque de France, etc. Bon, encore une bonne nouvelle. Bref. Et donc, ces modèles aussi sont fortement mathématisés par ailleurs. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, Je fais partie d'un courant qui dit, ben non, il faut des modèles en rationalité limitée. Donc ça, c'est un concept qui avait été introduit par un de mes maîtres qui s'appelle Herbert Simon. C'est mon maître parce qu'il a eu le prix Nobel d'économie pour sa théorie de la rationalité limitée dans les organisations. Et en plus, il s'est pas arrêté là. Il a fondé l'intelligence artificielle. Il fait partie des fondateurs. Donc il est à cheval entre lié à l'économie. Donc voilà, j'ai un poster, évidemment, de lui dans mon bureau. Non, c'est pas vrai, mais je devrais. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un d'assez formidable. Et il a dit, ben, le comportement humain, c'est, on sait faire des choses très fortes, mais on a des capacités limitées. On peut pas mémoriser 36 000 éléments. Vous savez combien d'éléments on peut mémoriser au maximum en même temps? Je vous le dis. Oui. Bon, il triche parce que lui, il sait. T'as pas le droit, Franck. 5. Maximum. Ça a été redémontré par les études en IRM, etc. Vous voyez? Et puis, on n'est pas capable d'anticiper sur un temps infini. Alors que dans les modèles mathématiques de l'économie mainstream, voilà. Bon. En tout cas, nous, on utilise des modèles dans lesquels on manipule un nombre fini d'informations et on fait des anticipations sur des horizons de temps limités. On est réaliste. On a de l'apprentissage, bien sûr, mais c'est pas l'apprentissage des réseaux de neurones, c'est un apprentissage plus cognitif. Voilà. Et puis, évidemment, on a dû, parce que c'est le problème du marché du travail, c'est que vous avez le code du travail, hein, et donc il faut mettre le code du travail dans WorkSim. Donc, premier doctorant, on en a un peu bavé, parce qu'il a fallu rentrer une bonne partie du code du travail dans WorkSim. Et puis, évidemment, ça vous a pas échappé qu'il est souvent changé, le code du travail. Donc, à chaque fois, on est obligé de le rechanger. Merci. Bon. Et puis, enfin, et là, c'est vraiment pour moi un point fondamental. Moi, si je veux dire des choses sur la réalité, il faut que je fasse pas un modèle théorique, il faut que je calibre mon modèle, c'est-à-dire que les paramètres de ce modèle doivent être fixés pour reproduire les données réelles. Par exemple, WorkSim, quand vous le calibrez, il vous reproduit pour une année donnée les taux de chômage que vous observez dans la réalité, les taux d'activité, etc., pour les différentes catégories, les hommes, les femmes, etc. Donc ça, c'est très important. Alors, une petite vue d'ensemble, donc on a nos individus. Parmi les individus, là, il y a les fonctionnaires et les étudiants, mais ceux-là, on les mobilise pas encore complètement parce que c'est un peu compliqué. Hein, on s'amuse pas à rentrer tous les régimes de la fonction publique, parce que là, je pense qu'il nous faudrait encore 10 ans. Et les étudiants, simplement, ils étudient et ils ont une probabilité à un moment donné de rentrer sur le marché du travail. Et puis les entreprises, elles produisent un produit et elles ont une demande qui fluctue. Et donc, quand elles ont de la demande, éventuellement, elles vont créer des postes pour remplir cette demande. À ce moment-là, si elle crée des postes, elle poste ça sur un site internet qui s'appelle JobAds. Les individus qui sont au chômage ou qui sont au travail et qui cherchent un autre emploi, parce qu'on a ça aussi dans WorkSim, candidatent, et éventuellement, il y a du recrutement. Et tout ça se fait dans, donc, comme on l'a dit, l'environnement politique et juridique changeant, les codes du travail et les décrets d'application qui peuvent arriver. Alors, je ne peux pas vous expliquer WorkSim, encore une fois, il me reste un quart d'heure. C'est un gros modèle. Hein, je vais être honnête, il y a plus de 100 équations, 30 000 lignes de code, donc c'est un gros modèle. Je vous donne juste quelques petites idées sur les comportements qu'on met, par exemple. Les individus, on va les modéliser en disant qu'à un moment donné, dans leur vie, dans leur carrière, ils sont dans un certain état. L'état, c'est par exemple, ils sont au chômage, ils sont inactifs, ça veut dire qu'ils ont renoncé à chercher un emploi. À ce moment-là, ils touchent le RSA. Ils sont employés, ou alors ils sont employés et ils cherchent un autre travail en même temps. Et à ce moment-là, ils vont à chaque fois calculer une satisfaction pour dire, bon, ben, finalement, alors la satisfaction, c'est ce qu'on mesure ça avec une utilité qui fait l'arbitrage entre un travail et le temps libre. Et donc, on regarde pour chaque état quelle est la meilleure satisfaction. Donc, bon, on calcule toutes les étapes, mais vous voyez, on est en relationnalité limitée parce qu'on n'en a que 4. Et ensuite, on choisit la plus grande satisfaction. Les entreprises, elles sont là pour faire du profit, ça c'est normal. Elles font ce qu'on appelle une analyse coût-bénéfice. Donc à chaque fois qu'elles vont faire prendre une décision, elles vont calculer la fonction de profit, c'est-à-dire les bénéfices moins les coûts, et puis elles vont décider. Et en particulier, on a un mécanisme assez puissant pour créer automatiquement, en fonction d'une demande, l'entreprise décide si elle crée un poste, et si elle le crée, est-ce qu'elle prend un CDD, un CDI ou l'intérim. Donc on a automatisé tout ça. Ça a été un des points importants du modèle. Voilà. Donc après, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les papiers sur le site WorkSim et puis sur ma page web. Alors, à quoi ça peut servir WorkSim? Ben, à étudier finement le marché du travail. On a fait émerger des choses qui existaient déjà, mais c'était déjà pour valider le modèle, notamment la segmentation, c'est-à-dire le fait que la plupart des gens sont embauchés en CDD et peu en CDI. Bon, on a pu étudier un certain nombre de choses. Et puis après, évidemment, c'est surtout ça moi qui m'intéressait, c'est pour faire de l'aide à la décision, en l'occurrence l'aide à la décision politique, c'est-à-dire quel est l'effet d'une loi. Alors, je vais quand même vous présenter une loi qui a fait parler un peu, et aussi sur WorkSim, qui est donc la loi El Khomri. Alors, souvenez-vous, ces gens-là étaient au pouvoir, il y en a un qui est resté, là, vous remarquerez. Donc, la loi El Khomri. Alors, on n'a pas modélisé toute la loi parce qu'elle est énorme et puis il y avait plein de choses qu'on pouvait pas modéliser, l'inversion des normes, etc. Ça va mettre dans WorkSim, c'était pas envisageable. On s'est concentré sur l'article qui était le plus économique dans la loi et qui a fait aussi le plus parler de lui. C'était la facilité des licenciements. Donc, l'article 67. Qui permettait grosso modo de... Alors, c'est la fameuse flexibilité du marché du travail. Et donc, ça voulait dire qu'on pouvait licencier sans justification n'importe qui, à partir du moment où on avait soit une baisse significative des commandes, vous voyez, c'est pas grand-chose, hein, c'est pas être en perte. C'est dès que vous avez une baisse de commandes, ah, ça va un peu moins bien, je peux licencier. Ou alors, j'ai mon chiffre d'affaires qui baisse, même si je suis en profit, c'est pas grave, je peux licencier. Donc, c'était quand même une bonne flexibilisation. Alors après, il y a eu plein de versions, et dans la dernière version, on avait modulé quand même en fonction de la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous aviez une petite entreprise avec seulement un trimestre de baisse de commandes ou de chiffre d'affaires, vous pouviez licencier. Et puis ça augmentait progressivement. Pour les grandes entreprises, il fallait attendre un an. Alors nous, on a simulé ça, donc avec 20 000 agents qui sont initialisés pour reproduire à l'échelle exactement les individus du marché du travail français. Donc on a une reproduction à l'échelle du vrai marché du travail français, à l'échelle 1/2300e ici, c'est-à-dire qu'un agent représente 2300 agents dans la réalité, donc on avait 18 000 individus, 1700 firmes. Alors, c'est pas évident de prédire le résultat, je sais pas. Bon, maintenant vous connaissez peut-être le résultat, mais c'était pas évident à l'époque, parce que vous avez deux phénomènes, c'est encore un problème d'émergence, deux phénomènes qui se battent. D'abord, on veut baisser le chômage en facilitant les licenciements. Bon, c'est un peu contradictoire, hein, parce que si vous facilitez les licenciements, par définition, vous augmentez mécaniquement le chômage. Donc ça paraît bizarre de faire ça. Les gens sont-ils fous? Non, ce n'est pas fou. Leur idée, c'est que oui, au départ, ça va faire du chômage, mais en même temps, ça va permettre de faciliter les embauches, parce que les entreprises, sachant qu'elles peuvent facilement licencier, auront moins peur d'embaucher en CDI. Ils embaucheront plus en CDI plutôt qu'en CDD, parce qu'on sait, c'est vrai, que les entreprises françaises, elles ont recours beaucoup au CDD parce qu'elles ont souvent la crainte de ne pas pouvoir licencier en cas de problème. Donc la logique n'est pas idiote. Il y avait deux forces qui combattaient, et moi, qui suis pourtant quelqu'un qui travaille sur le marché du travail depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, quand on me posait la question, je disais j'en sais rien, c'est pour ça que je fais des simulations, moi. Alors évidemment, bon, il y avait des gens qui apparemment savaient, puisque vous avez eu beaucoup de gens qui se sont précipités, notamment des économistes illustres, sur tous les plateaux télé pour donner leur avis. Bon, nous, on a fait une simulation. Alors, les résultats, c'est que ça entraîne une transformation profonde du marché du travail. El Khomri, c'est pas rien. Et effectivement, dans notre modèle, vous avez une inversion, c'est-à-dire que les embauches en CDD chutent, on passe de 77 à 30% des embauches en CDD, et à la place, vous avez le CDI qui devient le contrat majoritaire d'embauche. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au lieu d'avoir des embauches en CDD, grâce à cette flexibilisation, on a des CDI. Donc a priori, c'est bien. El Khomri. Oui, mais le CDI n'est plus le même CDI. C'est un CDI plus précaire, évidemment. Il devient plus court, même deux fois plus court. En général, la moyenne des CDI, c'est 5 ans à peu près. Là, mais... Et là, on passe plutôt à 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2-3 ans. Et, là, et plus précaire parce que la probabilité de perdre son CDI dans l'année augmente de 60%. Donc, c'est pas rien non plus. Et en particulier, on a une explosion des licenciements économiques, c'est logique, puisque c'est le mécanisme de la loi. Mais c'est pas fini. Un autre résultat encore plus étonnant, parce que ça, certains auraient pu éventuellement le deviner en disant, bah oui, ça a facilité les CDI, mais les CDI vont être plus précaires. Bon, ça, on peut un peu le deviner. Ce qu'on pouvait moins deviner, bon, d'abord, c'est que ça, au final, bah, quand je vous disais, il y a un combat entre deux forces, bah, malheureusement, le combat est nul. C'est-à-dire qu'on voit pas d'amélioration du chômage après 4 ans, dans notre modèle, hein. Mais il y a des substitutions. C'est favorable aux jeunes, puisque les jeunes, finalement, il y a 148 000 chômeurs de moins et 247 000 emplois en plus pour les jeunes, au détriment des plus de 50 ans. Donc c'est un peu comme si les jeunes prenaient la place de leurs parents. Bon, pourquoi pas? Et ça, c'était moins prévisible. Et alors la raison, c'est que... Alors la raison, on la retrouve ensuite en analysant la simulation, hein. C'est qu'en fait, les jeunes, au départ, ils sont en CDD. La plupart, malheureusement, c'est souvent les jeunes qui se retrouvent en CDD, qui sont embauchés en CDD. On les embauche plus difficilement en CDI. Donc, eux, ils bénéficient de l'embauche en CDI. En revanche, les seniors, enfin, pardon, c'est pas les seniors, les plus de 50 ans, ceux sont en général déjà en CDI, donc ils vont pas bénéficier de cette amélioration, ils vont juste avoir la force qui les licencie dès qu'il y a un problème. En plus, on a tendance à licencier d'abord les gens de plus de 50 ans parce qu'ils coûtent plus cher. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des mesures, puisqu'on a, on a modélisé une économie, en fait, avec Worksim, enfin, juste le marché du travail, mais on peut faire des mesures. Et par exemple, on a calculé que c'était profitable aux entreprises, ce système. Plus 19% d'augmentation de profit. Par contre, c'était au détriment des individus, forcément, puisqu'ils sont plus souvent au chômage. Ça faisait 9% de moins de revenus. Voilà. Alors, pour la petite histoire, quand on a présenté... Un jour, j'ai présenté ces résultats, je ne dirai pas dans quel contexte, parce que je ne peux pas trop en dire, mais enfin, j'ai un membre de l'équipe du cabinet El Khomri qui a assisté à ma présentation et qui a dit à la fin, c'est tout à fait ce qu'on escomptait. Bon. Ça aussi, c'est dit. Je vais avoir des ennuis, moi, en rentrant. Bon. Alors, ça, c'est une prédiction, hein. C'est juste un modèle. C'est peut-être faux. Est-ce qu'on peut confronter ça à la réalité? Alors, j'ose le faire ce soir. Bon, d'abord, pour être franc, c'est un peu tôt, parce que notre système, il donne un résultat à 4 ans, pour que ça se stabilise, bon. Et là, on est juste à 3 ans. Mais je vais quand même le faire. Alors, en vert, c'est ce qui est favorable à Worksim. On constate, depuis le début de la loi, une forte augmentation des embauches en CDI. Et ça, il y a eu vraiment un boost. Autrement dit, quand El Khomri est arrivé, il y a eu un boost d'augmentation des embauches en CDI. Et ça continue encore. El Khomri est toujours là, hein. La loi est toujours dans le... En fait, vous êtes actuellement sous ce régime. Donc, la hausse des embauches en CDI, on la prédit et on le retrouve. L'emploi des jeunes s'améliore. Et celui des seniors, faut que j'arrête de dire seniors parce que je commence à être concerné. Je suis un peu concerné. Des plus de 50 ans stagnent. Alors, ils baissent pas, les plus de 50 ans. Mais, néanmoins, ils s'améliorent pas. Donc, on a aussi, on retrouve un peu la prédiction de Worksim. En revanche, Worksim dit qu'il va y avoir une explosion des taux de licenciement économique, et c'est pas du tout ce qu'on observe. Il y en a même une baisse. Alors là, par contre, on s'est planté. Alors, évidemment, quand on s'est planté, on se dit pourquoi on s'est planté. Et en fait, l'explication qu'on a, c'est que les employeurs ont pas utilisé El Khomri. Ils ont préféré les CDD courts, parce qu'en fait, ils ont déjà plein de dispositifs pour faire la flexibilité. Le marché du travail français est déjà très flexible. Et donc, ils ont utilisé, simplement, les CDD courts pour la flexibilité. Voilà. D'autant que licencier économiquement des gens, pour l'image de l'entreprise, c'est pas terrible. Et ça, on l'a pas mis dans Worksim. Donc, on peut dire qu'on a presque bien raison, mais il y a un phénomène qu'on n'a encore pas capté. C'est-à-dire que nous, en fait, dans Worksim, on a supposé qu'est-ce qui va se passer si tout le monde utilise à fond la loi El Khomri. Voilà ce que vous allez obtenir comme résultat. On l'obtient qu'à moitié, qu'en partie, puisque les gens, finalement, n'ont pas utilisé complètement le dispositif. On avait déjà eu le problème quand on avait modélisé le contrat de génération, c'était la même chose. que le gouvernement Hollande avait proposé et qui n'avait absolument pas du tout été utilisé. Alors, on peut aller plus loin, on est allé plus loin. Alors là, on se rapproche un peu plus de Skynet. On est allé un peu plus loin en disant, bon, mais pourquoi on attendrait qu'un politique nous propose la bonne loi pour améliorer le marché du travail? Pourquoi on ne demanderait pas à l'IA de la trouver elle-même? Eh ben, on l'a fait et on sait faire. Donc, c'est le système OptiPol. Donc, on donne des objectifs. On dit, voilà, je voudrais un taux de chômage de temps, un taux d'activité de temps, etc. Enfin, je voudrais plutôt que tu me minimises le taux de chômage, que tu maximises le taux de revenu, les profits, etc. Donc, on lui dit ce qu'il faut. Et la machine, elle a des leviers. Donc, on lui donne des leviers. Tu peux baisser le SMIC, tu peux augmenter le SMIC, tu peux supprimer les CDD, etc. Et on la laisse faire. Et on y arrive. Mais je vous donnerai pas les résultats, je suis désolé. En tout cas, pas en public enregistré, parce qu'ils sont très provisoires. Je pourrais le donner en privé, si vous voulez. En fait, on a un problème pour avoir les résultats. Le système OptiPol fonctionne très bien, et franchement, moi, je suis très content, parce que je pensais pas que ça marcherait aussi bien. On a vraiment maintenant notre IA qui peut proposer des choses. D'ailleurs, peut-être pour la prochaine élection présidentielle, on ne sait pas. On va peut-être essayer de sortir des résultats. Mais cela dit, là, il faut attendre que le modèle WorkSim soit intégré dans une économie complète. C'est ce qu'on appelle le bouclage macroéconomique. Je vous explique rapidement le problème. Vous vous souvenez tout à l'heure, à El Khomri, on voit qu'il y a une hausse des profits. Donc il y a de l'argent en plus dans l'économie. Si les entreprises, je dis bien si, réinvestissent ces profits dans l'activité, elles vont créer des emplois. Donc ça va avoir un effet sur l'emploi. En revanche, à partir du moment où on a des gens qui ont moins de revenus, ils vont moins consommer, donc il y aura moins de demandes, donc ça va détruire les emplois. Donc il nous manque bien des boucles de rétroaction entre ce qui se passe dans le marché du travail et ce qui se passe dans le reste de l'économie. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Ce qu'on est en train de faire actuellement, notamment Habile Transition, dans le cadre de mon dernier gros projet qui s'appelle NumJobs, qui est un projet qui a démarré l'année dernière. Vous avez aussi des liens en partenariat avec Pôle emploi, dans lequel on s'attaque à la question à 100 millions d'euros, 100 milliards, quel va être l'impact du numérique, et en particulier de l'IA, sur l'emploi. La fameuse question, est-ce que ça va détruire des emplois, est-ce que ça va en créer? Donc nous, on est en train de faire un gros système de simulation. Alors là, on simule toute l'économie française, avec de l'innovation, avec de la R&D. Donc on a des entreprises qui vont innover, qui vont faire de la R&D, qui vont innover, et ces innovations vont avoir un impact ensuite sur la production, sur la demande, sur l'emploi, etc. Donc c'est un gros projet, difficile. En particulier, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les compétences qui vont être modifiées. C'est-à-dire, à cause de l'IA ou du numérique, peut-être que sur le marché du travail, je vois qu'il y a des jeunes parmi nous, ben peut-être que dans 10 ans, on demandera d'autres compétences parce que les machines auront pris certains postes. Il faudra donc se réorienter. Donc évidemment, Pôle emploi, ça les intéresse de pouvoir avoir ce genre de système pour faire du conseil, de la prédiction pour les gouvernements et autres. Et puis aussi l'impact sur l'organisation du travail, parce que si on est remplacé par des machines, comment l'organisation dans l'entreprise, dans le travail, dans la vie va être impactée. Voilà, donc je vous disais, on va avoir de la R&D, on va créer des innovations soit en procédé de fabrication, soit des nouveaux produits. Ça va faire des modifications dans les tâches de production et dans les compétences demandées par les entreprises, et donc ça va avoir des impacts sur la consommation, parce qu'il y a des nouveaux produits, sur l'emploi et sur la production. Donc vous voyez là, il faut qu'on modélise carrément toute l'économie française, et on voudrait que ça soit une fois de plus à l'échelle calée sur les données. Bref, il y a du boulot. Donc ça c'est le projet qui m'occupe actuellement, et puis je réfléchis aussi à un gros projet sur le climat, puisque c'est quand même un sujet dont on parle un petit peu, et là il s'agit de modéliser et de simuler l'impact des activités humaines sur l'environnement, avec à la fois l'environnement, le climat, et là c'est plus à l'échelle évidemment de la France, ça sera à l'échelle mondiale. Voilà, merci de me dire bon courage. Alors je termine un peu en retard, mais je termine quand même. Par une petite discussion. Bon, déjà, pourquoi finalement on fait de l'IA? Est-ce que c'est juste pour faire plaisir? Parce qu'on a un fantasme prométhéen? Parce que, bon, soyons un peu pragmatiques, voire terre à terre. D'abord parce que ça marche et que ça rapporte de l'argent. Donc les entreprises, clairement, elles font de l'IA actuellement parce que ça rapporte de l'argent, parce que c'est plus performant que les systèmes actuels. Et donc, tant que des bénéfices seront plus élevés quand on utilise de l'IA que quand on n'utilise pas, même si vous avez tous les remparts éthiques et toutes les préoccupations que vous pouvez avoir, ben elles continueront à la faire. Vous aurez du mal à stopper Google, à stopper Amazon, etc. Donc ça, il faut bien le comprendre quand même. Alors, par ailleurs, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi le bien commun. avoir des voitures autonomes lorsqu'elles seront au point qui diminuent drastiquement les accidents et qui sauvent des vies, c'est intéressant. Avoir des systèmes qui détectent avec une plus grande précision des cancers et qui vous permettent de vous sauver et de sauver des vies grâce à l'IA, c'est évidemment important et intéressant. Alors, est-ce que l'IA va pouvoir avoir un impact favorable à l'environnement? Alors là, je mets un point d'interrogation parce que peut-être, moi c'est ce que je vais essayer dans mon projet, en même temps je sais que l'IA c'est aussi une grosse consommatrice, mais je vais y revenir, de ressources. Et puis donc l'aide à la décision, hein, c'est l'axe que moi je privilégie. C'est-à-dire, quand on a des problèmes complexes, eh bien il faut peut-être essayer, avant de mettre une loi qui va peut-être faire beaucoup de perturbations, essayer peut-être d'anticiper et de tester les effets. Hein, quand je teste Worksim dans mon ordinateur, je fais du mal à personne. Je teste virtuellement et puis ça a quand même donné des idées pour savoir si c'est bien cette loi qu'il faut mettre en place et puis peut-être pour mieux paramétrer la loi, pour changer, parce qu'on peut, comme c'est ce que fait OptiPol finalement, on peut changer des paramètres pour optimiser une loi. Donc je dis pas qu'il faut remplacer ça qu'il faut remplacer les ministres ou les décideurs par ce genre de système, mais je pense qu'il faut les utiliser. C'est très intéressant d'ailleurs parce qu'au moment où on a lancé El Khomri, on a eu une grande médiatisation. Parce qu'on était les seuls à avoir modélisé, évalué cette loi. D'ailleurs, on était contents, le FMI, quand même, et la Commission européenne nous ont cités, dans leur rapport annuel sur la France, à cette époque, comme étant les seuls à avoir évalué la loi. Donc ils ont quand même considéré que notre travail était sérieux. Et donc on a eu de la médiatisation, et quand on discutait, donc on l'a fait, bon vous verrez, c'est sur le site Worksim, on a des vidéos, etc., notamment sur Mediapart, on a fait pas mal de vues, et quand on discutait, on voit les gens, les réactions des gens sur Internet, ils étaient tous surpris d'apprendre que ces systèmes-là n'existaient pas déjà. Tout le monde était persuadé que dans tous les centres de décision, à Bercy, etc., on avait des systèmes. Alors il y a des systèmes, mais souvent, comme je vous l'ai dit, ils sont plutôt, quand ils existent, sur des systèmes de prévision de modèles qui sont un petit peu faux, hein, par rapport au fonctionnement humain. Et puis parfois, il n'y a rien du tout. Enfin, dans El Khomri, il y avait une étude d'impact qui faisait certes 300 pages, mais honnêtement, je suis désolé, il n'y avait rien dedans. Donc, ça veut dire que ce n'est pas fait encore ce travail. Et donc, moi, je milite pour qu'on utilise plus ces IA pour améliorer, puisqu'on a plein de problèmes complexes à régler. Si on peut se faire aider par ces systèmes, il ne faut pas hésiter. L'acceptation d'IA, pour rappeler qu'elle n'est pas la même pour tout le monde, je vous regarderai quand je passe pas en détail tout ce qu'il y a là, mais c'est juste pour vous montrer que ben vous avez des Français, par exemple, qui sont assez sceptiques sur le fait que, par exemple, l'IA sera bonne pour la société, 34%, alors que les Chinois sont 91%. Vous savez que la Chine est actuellement le pays qui investit le plus dans l'IA et qui va sûrement dépasser les États-Unis dans ce domaine-là comme dans d'autres. Et puis les Américains, alors ça dépend de l'âge, hein. Vous avez les millennials, vous avez les baby boomers. Bon, les Américains sont un petit peu plus aussi partagés, mais quand même plus enthousiastes que les Français, qui sont toujours méfiants. Et voilà, donc il y a aussi une question d'acceptation de l'IA qui devrait être prise en compte sur son avenir. Alors justement, son avenir, bah, c'est toutes les craintes et les dangers qu'il y a autour de l'IA. Bon, j'ai déjà parlé du travail. Est-ce que les machines vont nous remplacer ou pas? Est-ce qu'on dans quelle mesure ça va bouleverser le travail? Moi, après tout, peut-être ne pas travailler ou travailler moins pour faire d'autres choses si les machines le font à ma place, c'est une réflexion. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut peut-être du revenu universel. Donc, on remet en cause complètement, évidemment, les systèmes socio-économiques, les sociétés, mais pourquoi pas? On peut en discuter. Évidemment, quand on passe à de la singularité, de la dénumération des machines, c'est un autre problème. La pollution, donc ces systèmes d'IA sont extrêmement, en particulier, vous allez dire que je m'acharne dessus, mais les systèmes d'IA des données, en particulier, bah, pour apprendre toutes les données, pour faire ces calculs d'apprentissage, c'est très 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 gourmand en termes de ressources, que ce soit de puissance de calcul, de stockage de données, etc. Donc ça a un impact économique très fort. On se l'a dit, le mail que vous envoyez, la requête Google a aussi un impact économique, mais quand on va utiliser ces systèmes d'IA, systématiquement partout, ça va être encore plus fort, et donc c'est une crainte. Et puis donc il y a les questions éthiques, hein, évidemment, sécurité, vie privée, démocratie. Hein, quand les systèmes apprennent et vous surveillent automatiquement, bon, on sait qu'en Chine il y a le fameux système de rating social qui a été pas inspiré, mais qu'on retrouve dans Black Mirror, le fameux épisode Nosedive, où vous avez toute la société qui est jugée, notée, contrôlée par des systèmes de réputation qui pourraient ensuite être contrôlés par des IA. Et puis les problèmes juridiques, notamment l'explicabilité dont j'ai déjà parlé. Alors quel avenir pour l'IA? Bah écoutez, je ne sais pas. On peut imaginer deux visions, à mon avis. La vision technophile forte, qui est de dire, comme je l'ai dit au début de ma conférence, la version technophile, c'est de dire, bon, bah, l'humain, bon, il est sympa, l'humain, mais il échoue. Il n'est pas capable de régler les problèmes de santé, de soigner les gens, la finance, l'environnement, la sécurité. Et on va le remplacer par des machines plus performantes. Pourquoi pas ? Mais évidemment, le problème, c'est pourquoi les machines ensuite se resteraient avec ces humains pas performants. Et puis une version techno-modérée, pas utile de remplacer l'humain par une machine. D'abord, on est déjà assez nombreux, il y a du chômage, donc pourquoi on irait mettre des IA pour nous remplacer alors qu'il y a des gens qui trouvent pas de travail ? Il y a d'autres urgences, climat et environnement qui restent détériorés par une utilisation massive de l'IA. Donc utiliser l'IA comme des aides et complémentaires aux activités humaines serait peut-être une version plus raisonnable. Vous imaginez que c'est ma position, évidemment. Et je conclurai avec mon ami Albert. J'aime beaucoup Albert, c'est pas seulement en tant que grand génie, un des plus grands génies de la science, mais aussi parce qu'il a des réflexions très intéressantes. Et il a dit en particulier, je suis réellement un homme quand mes sentiments, mes pensées et mes actes n'ont qu'une finalité, celle de la communauté et de son progrès. Alors évidemment, cette phrase, c'est un peu ironique, elle est magnifique évidemment, mais il y a un peu d'ironie puisque vous savez que c'est justement l'exemple de celui qui a créé une invention scientifique qui a ensuite été complètement détournée pour faire des choses que l'auteur ne voulait pas. Et on a vu ce que ça a donné avec la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima, etc. Et il s'est battu énormément une fois qu'il a pris conscience que bah, malheureusement les gens n'avaient pas tous cette vision en tête. Alors est-ce que ça sera parcelle pour l'IA ? Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous dans l'avenir. Et en attendant, bah, je vous remercie de votre attention.